Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 17 janvier 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. En République démocratique du Congo, au moins 15 morts dans des attaques menées par des milices dans la province de l'Ituri. Au Soudan, 7 manifestants ont été tués au cours de nouvelles violences ce lundi. Tempête hivernale dans l'est des États-Unis, les chutes de neige ont provoqué des perturbations dans les transports. L'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou négocie sa peine pour corruption afin d'échapper à la prison. Après le journal, ce sera le journal de la Coupe d'Afrique des Nations avec Emmanuel Junta. Alors que la troisième et dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations se dispute dès ce jour, certaines sélections nationales enregistrent des forfaits définitifs pour la suite de la compétition. C'est le cas du Gabon qui s'est séparé aujourd'hui de son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina pour cause de Covid-19. Le journal de la CAN avec Emmanuel Juntap.
Bonsoir. C'est avec le cœur meurtri que le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, a fait l'annonce ce matin au cours de la conférence d'avant-match. La CAN est terminée pour l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le milieu de terrain Mario Lemina. Testés positifs au Covid-19, ils n'ont pu se rétablir. Les explications de Pierre Neveu.
Vu le souci médical que Pierre-Emerick et Mario ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération, les joueurs, on a pris la décision sage de les faire entrer dans leur club afin qu'ils puissent se soigner, enfin être pris en charge pour deux raisons. La première, c'est que par rapport au, il n'y a pas de grosses alarmes par rapport aux problèmes cardiaques parce qu'ils n'ont pas de problème cardiaque. Par contre, sur place, nous ne sommes pas en maîtrise d'analyser, comment dirais-je, la dangerosité des déchets qui occasionnaient cette inflammation. Donc on ne peut pas prendre de risques. Et en plus, l'aspect psychologique devient insupportable pour eux. De rester en chambre, ça devient insupportable. Donc hier, on en a parlé et on a décidé de les faire rentrer, quoi.
Ces deux joueurs sont du côté du Gabon, les grands absents du duel de ce mardi à Yaoundé contre le Maroc dans le groupe C. Les Lions de l'Atlas ont également des joueurs blessés, mais le coach Vaïd veut décrocher les 3 points de la rencontre.
Ça sera un match aussi pour nous, je ne suis pas dit ni favori, pas du tout, mais on a ambition pour terminer cette compétition groupe par une victoire. Et on a pas mal de raisons pour pourquoi on essaie de gagner ce match.
Pour cette troisième journée, deux équipes du groupe B, basées à Bafoussam, vont s'affronter, cette fois, au stade omnisports de Yaoundé. Le Zimbabwe sera aux prises avec la Guinée-Conakry. Kaba Diawara, l'entraîneur guinéen, vise la première place.
Ben justement, nous, on vient d'une période un peu compliquée, parce qu'on a fait des éliminatoires de Coupe du Monde très compliquées. Donc là, on est vraiment en reconstruction et donc c'est facile pour nous de se mettre la tête à l'endroit. C'est bien beau d'avoir fait 2 matchs, 4 points, mais on a rien fait au final. Donc il faut toujours rester concentré et pourquoi pas viser cette première place en cas de victoire. Donc les garçons le savent, moi je le sais, donc on va tout faire pour faire la meilleure paire possible.
Le Zimbabwe, dernier au classement avec 0 point, n'a pas encore totalement lâché prise. Norman Mafeza, l'entraîneur sélectionneur des Warriors.
If you look at the players in their squad, they've got players who are playing for top clubs in Europe.
Si vous regardez notre équipe, nous avons deux joueurs qui évoluent dans les grands clubs en Europe. Pour le match de demain, on va le jouer dans un état positif. Nous avons cette confiance que tout peut arriver au football. Ce qui est important, c'est que nous avons préparé nos joueurs psychologiquement pour oublier ce qui s'est passé lors des deux derniers matchs. Et l'un de nos meilleurs buteurs sera de retour demain. C'est psychologiquement bien.
Retour sur la surprise de la journée d'hier dans le groupe E. Les Fenech d'Algérie, champions en titre, ont été battus par la Guinée équatoriale 1-0. Djamel Belmadi, coach de l'Algérie, après le match d'hier, regrette le manque d'efficacité de ses poulains devant le but.
Le ballon ne veut pas rentrer au fond. Les situations, on les crée. Je vous dirais presque par dizaines, si je ne m'abuse. Aucune ne veut rentrer au fond. C'est vrai que c'est l'Everest. Pas de par la qualité incroyable, indéniable de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est une grande équipe, c'est une grosse nation du football avec de grandes individualités. Mais c'est pas ça c'est pas ça qui fait qu'on a l'impression que ce soit insurmontable. C'est une autre situation à nous. Le fait de rentrer dans ce tournoi après deux matchs et avoir un point, le fait de fournir des efforts et ne pas les concrétiser. Aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Le classement est quasiment anecdotique. Il n'y a qu'à voir le match de cet après-midi, Mali-Gambie. Il n'y a qu'à voir le match du Sénégal. Quasiment toutes les équipes sont dans la difficulté. Je l'ai dit dès le début du tournoi.
À noter que le groupe A, où est logé le Cameroun, livre ses qualifiés pour les huitièmes de finale ce soir, au terme de la journée. Le journal de la CAN prend fin. Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Pour compléter ce journal de la CAN d'Emmanuel Juntap, le Burkina Faso rejoint le Cameroun, le Maroc et le Nigeria en huitièmes de finale. Les étalons ont fait match nul un partout avec l'Éthiopie et se classent deuxième du groupe A avec 4 points derrière les Lions indomptables, premier avec 7 points. Ces derniers ont aussi fait un match nul un partout avec les requins bleus du Cap-Vert qui attendront pour une éventuelle place de meilleur troisième qualificatif pour les huitièmes. Avec un seul point pris en 3 matchs de poule, l'Éthiopie est éliminée. En République démocratique du Congo, au moins 15 personnes ont été tuées hier dans 2 attaques menées par des milices en Ituri, une province en état de siège dans le nord-est du pays. Le point avec Rosine Mounezero.
Dans la localité de Mabanga, dans le territoire de Djougou, les miliciens ont brûlé des maisons, pillé des boutiques et tué 6 personnes, dont 4 femmes, a déclaré Njangolé Assani, responsable de la société civile locale. Monsieur Assani a accusé les miliciens du groupe armé Codeco d'être les auteurs de la tuerie. Quand ces miliciens Codeco sont entrés ici à Mabanga, il n'y avait aucun militaire de l'armée congolaise, a-t-il déploré. Plus au sud, dans le territoire d'Irumu, des rebelles ont fait irruption dans le village de Kokonyangi. Jonas Lemizorabo, un chef traditionnel, a indiqué que 11 corps ont été découverts tandis que 10 autres civils ont été blessés. Le porte-parole de l'armée en Ituri a confirmé ces 2 attaques, mais n'a pas souhaité donner d'autres détails. Dans la province du Nord Kivu, voisine de l'Ituri, la population en colère a bloqué lundi durant plusieurs heures un axe routier majeur. Après qu'une maman et son fils ont été tués chez eux dans la localité d'Oicha, dans la nuit de dimanche à lundi par des militaires, a déclaré Nicolas Kikuku, bourgmestre de la commune, sans autre détail sur les circonstances du drame.
Au Soudan, 7 manifestants ont été tués au cours de nouvelles violences ce lundi. Les forces de sécurité ont sorti les armes lourdes et tiré des grenades lacrymogènes contre des milliers de manifestants. Le point avec Gini Kapumbu-Villa.
Les militants d'un pouvoir civil ont de nouveau mobilisé des manifestants lundi à Khartoum, bravant les forces de sécurité déployées en masse dans la capitale. Pour la première fois, celles-ci ont sorti leurs armes lourdes, des mitrailleuses étant visibles au-dessus des véhicules, selon un journaliste de l'AFP. Les manifestants brûlaient des pneus et dressaient des barricades pour couper des routes à Oudurman. La répression a déjà fait 64 morts dans les rangs des manifestants. Le général Buran, qui s'est entouré de généraux et de civils sans passé militant, est de facto seul aux commandes du pays, l'un des plus pauvres du monde. Un général de police a été poignardé à mort lors de récentes manifestations, tandis que les forces de sécurité tirent parfois à balles réelles sur les protestataires. Elles ont agressé des blessés et des médecins dans les hôpitaux, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Par ailleurs, 9 membres sur les 15 du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé ce lundi toutes les parties à faire preuve de retenue au Soudan. Le président ivoirien Alassane Ouattara, en visite au Gabon, a défendu les sanctions imposées par les États ouest-africains au Mali estimant inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. La CDAO et l'UMOA ont pris le 9 janvier des mesures vigoureuses à l'encontre de Bamako en réaction aux velléités de la junte de se maintenir au pouvoir plusieurs années. Lors d'une conférence de presse à Libreville, où il a rencontré son homologue Ali Bongo, M. Ouattara a dit que les dirigeants ouest-africains avaient tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. L'opposant rwandais Paul Rusesabagina n'a pas comparu ce lundi à l'ouverture de son procès en appel demandé par le parquet. En son absence, le juge a ajourné le procès et annoncé que le tribunal statuera mardi sur la poursuite ou non des audiences sans lui. Monsieur Rusesabagina a été reconnu coupable en septembre d'avoir fondé et d'appartenir à un groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Il a été condamné à 25 ans de prison. Le parquet, qui avait requis la prison à perpétuité, a fait appel des peines prononcées contre les prévenus. Ce matin, les 20 co-accusés de M. Rusesabagina ont comparu devant une cour d'appel de Kigali. Le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, a appelé à la mise en place d'un nouveau gouvernement intérimaire à Tripoli, estimant que le mandat de l'exécutif actuel a expiré avec le report des élections. Le mandat du gouvernement a expiré sur la base d'une motion de censure votée par le Parlement et du fait que son mandat a pris fin le 24 décembre, a déclaré M. Saleh lors d'une séance de la Chambre à Tobrouk, où siège l'Assemblée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, accusé de corruption, négocie sa peine pour échapper à la prison. Un arrangement qui pourrait mettre un terme à sa carrière politique et faire tomber l'actuel gouvernement. Le point avec Nani Talani.
Les négociations de M. Netanyahou devraient lui permettre d'échapper à une éventuelle peine de prison. Des sources judiciaires ont affirmé à l'AFP que des pourparlers ont lieu dans ce sens entre le clan de l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou et la justice. Mais rien ne dit si M. Netanyahou, à la tête du gouvernement israélien de 2009 à juin dernier, acceptera un accord. Et des Israéliens ont manifesté contre l'accord ce week-end devant la résidence du procureur à Petah Tikva. L'ancien premier ministre de 72 ans est accusé d'avoir reçu des cadeaux de riches personnalités, d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable auprès du plus grand quotidien payant israélien, le Yediot Aharonot, et d'avoir favorisé un magnat des télécoms dans un but similaire. Inculpé de corruption, d'abus de confiance et de malversation, M. Netanyahou clame son innocence et accuse la justice d'avoir ourdi un coup d'État contre lui. Malgré ces accusations, M. Netanyahou s'est maintenu des mois au pouvoir et a remporté des élections anticipées jusqu'à ce que ses rivaux ne rallient une majorité en juin dernier pour mettre un terme à son règne.
Ici aux États-Unis, des millions de personnes ont été obligées de rester chez elles ce lundi après une tempête hivernale qui a frappé l'est du pays. D'importantes chutes de neige et de glace ont provoqué des coupures de courant et des perturbations dans les transports routiers et aériens. Le point avec Abdourahman Dia.
L'alerte météo hivernale concerne plus de 80 millions de personnes. Le National Weather Service avait averti qu'une tempête hivernale majeure frapperait l'est des États-Unis avant de se diriger vers le sud du Canada. Il avait indiqué que jusqu'à 30 cm de neige pourrait recouvrir lundi une zone qui va du Tennessee et de la Géorgie dans le sud-est au Vermont et à l'État de New York dans le nord-est, accompagnée de vents forts et de pluies verglaçantes. Les vents pourraient atteindre la force d'un ouragan sur la côte atlantique, encore prévenu le NWS. Les coupures d'électricité ont affecté près de 200 000 personnes tôt ce lundi. Des milliers de vols domestiques et internationaux ont été annulés. L'aéroport international Charles Douglas en Caroline du Nord a été le plus touché avec 1200 vols annulés, soit 90% de ses services réguliers selon le site FlightAware. Plusieurs États ont en outre fait état de perturbations sur les axes de circulation dimanche soir. Une partie de l'autoroute inter-État I-95 a été fermée en Caroline du Nord.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. L'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, est décédé hier à Bamako à l'âge de 76 ans, un an et demi après avoir été renversé par les militaires. Ministre, premier ministre, opposant, puis président entre 2013 et 2020, il a été un personnage majeur de la politique malienne pendant une vingtaine d'années. Modibo Dembélé a joint Sékou Tangara, directeur de l'information à la chaîne Africable, qui revient sur le parcours et l'héritage politique d'Ibeka.
On peut dire qu'Ibrahim Boubacar Keïta, c'était un homme très, très cultivé. C'était un amoureux de la littérature française, de l'histoire du Mali, de l'histoire même des relations internationales dont il est spécialiste. Mais quelqu'un dont on peut dire qu'il était aussi déconnecté, puisque dans notre contexte, voir un chef d'État se rendre au Conseil des ministres avec des dictionnaires dans le contexte d'un pays à 75-80% de taux d'analphabète. Sinon, c'est un homme très, très ouvert.
De lui quand on regarde un peu son long parcours politique.
C'est un parcours à deux niveaux. Le premier niveau qui satisfait la majorité des Maliens, ça c'est Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre. C'est quelqu'un qui est venu éteindre le feu au milieu des années 90 lorsque le président Alpha Omar Konaré avait du mal à asseoir son régime. On se rappelle l'année blanche 1993-1994, un mouvement des gendarmes au Mali, mais grâce à sa pugnacité, à son leadership, il est venu amener une certaine sérénité pour permettre au président Alpha Omar Konaré d'amorcer ce premier mandat. Donc, premier ministre, homme de poigne, ça satisfait tous les Maliens. En revanche, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dessus, si l'on en croit, beaucoup de Maliens, puisque l'espoir placé en lui au lendemain de la présidentielle 2013 n'a pas été escompté. L'armée n'a pas été relevée comme il le faut. Le pays est resté sous le coup de l'insécurité. La corruption a pris l'ascenseur. 2014 avait été décrété année de lutte contre la corruption. Mais cette année même, on a entendu des affaires d'équipement militaire, d'avions présidentiels, des scandales, des engrais frelatés, des scandales dont lui-même il était au cœur. Donc autant le premier Ibeka a satisfait, autant le président Ibrahim Boubacar Keïta a déçu, d'où son éviction le 18 août 2020 à la suite de manifestations populaires.
Quel enseignement le politique malien pourrait-il tirer du parcours de ce grand homme politique?
Lorsque la majorité des populations fait confiance à un homme politique pour l'amener à la magistrature suprême, ce n'est pas un chèque en blanc. Si le président, le politique sort des missions que le peuple a assignées, il reste clair que ce même peuple va revenir sous une autre forme pour mettre à l'écart cet homme politique. C'est ce qui est passé avec Ibeka. Rappelez-vous, le plébiscite de 2013, il a eu 77% de suffrage, un tour jamais égalé dans l'histoire politique du Mali. La façon dont il a quitté le pouvoir 7 ans après donne vraiment à réfléchir. Et les jeunes politiques doivent s'en inspirer pour ne pas subir malheureusement le même sort.
C'était Sékou Tangara de la télévision Africable.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Aux États-Unis, les consommateurs expriment leurs inquiétudes face à la plus forte augmentation des prix depuis 40 ans, soit 7% en rythme annuel en décembre. En 2021, la plupart des pays, y compris en Afrique, ont connu une inflation importante. John Linden a demandé à Idriss Njoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin, quelles sont les causes de l'inflation dans le monde.
L'inflation est une situation au sein d'une économie où les prix d'un certain nombre de biens et services qui sont couramment utilisés par les ménages, notamment les agents économiques comme toi et moi ou encore même les entreprises, lorsque les prix de ces biens et services augmentent. Naturellement, c'est toujours une situation un tout petit peu inconfortable parce que parfois les ménages se retrouvent avec le même niveau de revenus, le même niveau de salaire, le même niveau de dividendes peut-être, mais en même temps, les prix du pain, les prix du transport, les prix de l'énergie augmentent. Et donc, c'est une situation qui est assez inconfortable pour les acteurs économiques.
Alors, justement, ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'inflation. Qu'est-ce qui justifie cela en ce moment-ci?
Alors, au niveau global, il y a quand même un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est exactement comme si vous avez fini de jouer un match de foot et qu'il y a une seule bouteille d'eau. Tout le monde va se précipiter pour boire la bouteille d'eau. Et forcément, le fait que tout le monde veut boire la bouteille d'eau, ils sont prêts à payer le prix le plus fort pour pouvoir la consommer. Donc, en général, le phénomène classique de l'inflation, c'est lorsqu'il y a une situation où les biens qui sont produits au sein de l'économie ne sont pas suffisants par rapport à la demande. Et actuellement, un phénomène qu'on assiste dans le monde, c'est que le fait qu'avec la COVID, il y a eu des engorgements dans certains ports stratégiques, notamment en Chine. Les marchandises n'arrivent plus avec le volume qu'il faut pour la demande. Ça, c'est le cas particulièrement aux États-Unis où on a une inflation qui est liée à la faiblesse de la capacité de production. En Europe, par contre, l'inflation est surtout le fait de la hausse des prix de l'énergie parce que les Européens ont réussi à faire en sorte que les biens qui sont dans le panier de la ménagère, notamment la consommation alimentaire, les biens et services, soient plus ou moins stabilisés. Mais ils n'avaient pas prévu que les prix de l'énergie allaient augmenter, notamment les prix du gaz, les prix du pétrole et surtout le prix du gaz, parce que les Russes et l'Ukraine, qui sont en difficulté, ont créé une situation où l'offre de gaz est menacée et donc la spéculation a pris son relais pour pouvoir faire augmenter les prix.
C'était Idriss Njoya, rédacteur en chef de l'agence Ecofin.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Alors que les infections à Omicron augmentent aux États-Unis, le président Joe Biden promet que son administration achètera 1 milliard de tests COVID-19 et mettra des masques à la disposition des Américains. Le variant du coronavirus se propage plus rapidement que ses prédécesseurs et les experts avertissent que davantage de mutations du virus sont probables. Un reportage d'Arash Arabassadi, le récit est de Nanit Talani.
Dans leur directive récemment publiée, les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, les CDC, considèrent le masque N95 comme la meilleure protection contre le COVID-19. S'exprimant dimanche sur la chaîne ABC, le chirurgien général des États-Unis, le docteur Vivek Murphy, a réaffirmé les efforts de l'administration en faveur de la vaccination anti-coronavirus.
L'objectif du vaccin, le plus important, est de vous sauver la vie et de vous éviter d'aller à l'hôpital. De ce point de vue, les vaccins ont fonctionné et fonctionnent bien. Maintenant, comme beaucoup de gens, vous entendez parler de personnes ayant eu des cas bénins ou asymptomatiques, des personnes dont le test est positif malgré la vaccination ou le rappel, mais gardez à l'esprit que ce qui est souvent évité, c'est une infection plus grave.
Le docteur Murphy a ajouté que les données montrent une forte efficacité de la vaccination malgré une probabilité d'infection d'environ 20% chez ceux qui sont vaccinés et qui ont reçu une injection de rappel. L'administration Biden a été critiquée pour ne pas avoir acquis suffisamment de masques et de tests alors que le variant Omicron se répand à travers le pays. Le docteur Vivek Murphy.
Lorsque Omicron est arrivé, cela a créé une augmentation extraordinaire de la demande. C'est pourquoi les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays se sont retrouvés sans autant de tests qu'ils en avaient besoin. Mais nous mettons tout en œuvre pour avoir les tests.
Le docteur Murphy dit que le gouvernement a supervisé une multiplication par 8 des tests entre décembre et janvier. Les critiques disent que ce n'est tout simplement pas suffisant. L'ancien conseiller à la sécurité intérieure de l'ex-président Donald Trump, Tom Bossert, a dit sur la chaîne ABC que le gouvernement Biden opère à partir de l'arrière.
Nous avons commandé trop peu de kits de tests de sorte que notre capacité de test a continué à être à la traîne par rapport à chaque vague. C'est trop peu et trop tard, mais digne de mention pour la prochaine vague. Nous avons commandé trop peu et trop peu de traitements et nous n'avons pas encore de plan mondial de distribution et de livraison des vaccins. Nous pouvons donc travailler sur beaucoup de choses.
L'ancien conseiller à la sécurité intérieure de Trump ajoute que les Américains, fatigués de la pandémie, doivent rester vigilants. L'Organisation mondiale de la santé a récemment signalé 15 millions de nouveaux cas de COVID-19 en une semaine, soit un bond de 55% par rapport aux chiffres précédents. Les États-Unis représentent à eux seuls près de 800 000 nouvelles infections chaque jour. Le CDC n'a pas encore recommandé l'utilisation à l'échelle nationale du masque N95, mais le Washington Post rapporte que l'agence envisage de mettre à jour les directives.
Les États-Unis célèbrent la journée Martin Luther King ce lundi en hommage au pasteur noir américain connu pour son rôle dans la lutte pour les droits civiques. Les questions de justice sociale continuent de jouer un rôle central dans la politique américaine. Un reportage de Laurel Bowman, relaté par Abdourahman Dia.
Et je veux dire au peuple américain et aux nations du monde, nous avançons et aucune vague de racisme ne peut nous arrêter.
L'ascension de Martin Luther King Jr. en tant que leader des droits civiques a commencé en 1955 lorsqu'il a dirigé la campagne en faveur de la déségrégation des bus publics dans l'État de l'Alabama. Il a ensuite dirigé des mouvements pacifiques en faveur de l'égalité des droits. En 1964, Dr. King a remporté le prix Nobel de la paix. La même année, le président américain Lyndon Johnson a signé le Civil Rights Act et l'année suivante, le Voting Rights Act. Ces lois ont interdit la ségrégation raciale dans les lieux publics et les pratiques discriminatoires qui empêchaient les Noirs de voter.
Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur caractère.
Cette semaine, le ministère américain de la Justice a rendu hommage au Dr. King dans un forum virtuel. Christine Clark est procureure générale adjointe pour les droits civiques au ministère américain de la Justice.
Dr. King a eu un impact sur toutes nos vies et son héritage d'espoir et son engagement farouche en faveur de la justice et de l'égalité reste présent dans notre travail quotidien à la division des droits civiques.
De nombreux leaders du mouvement des droits civiques affirment que la lutte de Dr. King pour l'égalité des droits de vote reste d'actualité. Sherilyn Ifill est membre de l'organisation des droits civiques NAACP.
Voici ce que dit le Dr. King. Donnez-nous le bulletin de vote pour que nous puissions élire des juges qui seront justes. Donnez-nous le bulletin de vote pour que nous puissions élire des personnes qui comprendront ce qui est censé être un programme de justice pénale.
La semaine dernière, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont rendus au lieu de sépulture de Martin Luther King Jr. dans l'État de Géorgie, où Biden s'est exprimé sur le débat national en cours sur le droit de vote.
Ce n'est pas seulement ici en Géorgie. Rien que l'année dernière, 19 États n'ont pas proposé, mais promulgué 34 lois attaquant le droit de vote. Il y a près de 400 projets de lois supplémentaires que les républicains ont tenté de faire adopter au niveau des États. Il ne s'agit plus de savoir qui peut voter. Il s'agit de rendre le vote plus difficile. Il s'agit de savoir qui compte le vote et si votre vote compte du tout.
Les républicains rejettent les critiques de Biden, affirmant que leur camp cherche plutôt à protéger et non à contraindre le vote en Amérique. Ils se disent également alarmés par les propositions visant à modifier les règles du Sénat pour adopter une nouvelle loi nationale sur le droit de vote sans le soutien des républicains. King a été assassiné en 1968. Mais des décennies plus tard, ses célèbres paroles inspirent encore beaucoup à continuer à travailler pour la justice raciale, une question qui reste au cœur du dialogue national aux États-Unis.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente année 2022. À très bientôt et bon courage.